Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain. Ce soir, SNU, la mère patrie. Pourvu que les ennemis de la France ne choisissent pas de nous envahir un jour de canicule, sans quoi les jeunes recrues du Service National Universel ne leur opposeront qu'une faible résistance. Une vingtaine d'entre eux a fait un malaise mardi à Évreux après être resté un peu trop longtemps au garde à vous en plein soleil. Ça commençait mal. Le SNU n'a pas fini de se faire tirer les cloches. L'expérimentation vient seulement de débuter, qu'elle fait déjà l'objet de vives critiques pour dénoncer en vrac la volonté d'embrigadement de la jeunesse, l'impossibilité d'y échapper lorsque le dispositif sera généralisé, ou encore son caractère faussement universel dans la mesure où seuls les jeunes y sont astreints. Sur le principe, cela semble pourtant partir d'une bonne intention. Il s'agit d'encourager la jeunesse à s'engager et de renforcer la cohésion républicaine en favorisant le brassage social. Mais est-ce au son de la Marseillaise que ce projet doit être mené? Et à quoi rime ce recours aux signaux forts du patriotisme? Alors SNU, la mère patrie. Et je signale, car ça ne s'entend pas, que c'est un jeu de mots qui est plutôt à regarder plutôt qu'à entendre. La mère, c'est L'amère. Et pour répondre à cette question qui n'en est pas tout à fait une, trois des membres de notre club. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous venez de lancer QG, le média libre. Un mot sur ce lancement, puisque ça date, c'est tout chaud. Alors, ça date il y a 48 heures.
Absolument, c'est une web télé. Le décollage se passe tout à fait bien, puisqu'en 48 heures, nous avons déjà atteint 30% de notre objectif financier. Voilà, donc je demande aux gens s'ils le souhaitent de regarder le projet. Il est en ligne sur KissKissBankBank sur Internet.
Voilà, projet à ne pas confondre avec le média dont vous étiez la directrice il y a encore quelques mois. Pour discuter avec vous, Sylvain Bourmois, notre patron de média. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Puisque vous dirigez le site AOC, et puis on vous retrouve le samedi à 12h45 dans la suite, dans oui. Les idées sur France Culture. Et puis la troisième des membres de notre club ce soir, Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, vous écrivez beaucoup sur l'Europe. Vous avez eu une vie avant d'être essayiste. Vous étiez dans l'armée. Oui, j'ai appris ça en préparant l'émission. Pendant combien d'années ?
17 ans. J'étais officier dans l'armée, officier d'administration, commissaire des armées.
Alors c'est forcément à vous que j'ai envie de poser la première question. Qu'est-ce qu'une ancienne militaire, vous aviez le statut de militaire, donc j'imagine,
oui
officier,
fait,
vous avez
oui.
dit, pense de ce service national universel et de sa mise en route, qui semble avoir été, dans certains endroits en tout cas, un petit peu chaotique?
Moi j'ai l'impression que c'est plus un gadget qu'autre chose. Ce sont des jeunes qui sont d'abord très jeunes, ce ne sont pas des jeunes adultes, ce sont encore des adolescents. Auxquels on va proposer de faire un peu de colonie de vacances aux frais de l'État, et ce qui me semble, alors sans formation du tout au métier des armes, et ce qui me semble quand même être en priorité du ressort de l'école publique. En fait, c'est presque une façon d'acter un certain échec de l'école publique.
Sans passer par le métier des armes, est-ce qu'il faut entendre un regret de la part, je ne vais pas le dire à chaque fois hein, pendant l'émission, je vous rassure, Coralie Delhomme, mais de la part de l'ancienne militaire que vous êtes?
Non, moi je ne regrette rien, je ne prône pas le rétablissement du service national, ce serait très compliqué, il n'y a pas les moyens, il n'y a plus les emprises, il n'y a pas les cadres pour former les appelés, donc je ne prône pas ça, ce serait une très lourde charge pour les armées qui n'en ont plus les moyens. Mais je pense que ce truc-là, ce SNU, est un peu un gadget qui va peut-être apporter un peu de loisir aux jeunes, mais guère plus.
Bon, Aude Lancelin, vous ne serez pas astreinte à ce service national universel? Enfin, je ne crois pas, hein. Vous n'êtes plus mineur. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire, hein, ou en tout cas quelque chose qui vous paraît intéressant?
Je ne m'attendais pas à cette question, à vrai dire.
Je m'en doutais un peu.
Non, moi je ne suis pas anti-militariste et anti-patriotique comme toute une partie de mes amis de la gauche. Donc en soi, ça n'est pas révoltant comme idée. Simplement, c'est vrai que j'ai écouté les arguments des militaires qui sont échangés en ce moment, et beaucoup d'entre eux sont extrêmement inquiets et extrêmement critiques sur ce service national universel. D'abord sur les conditions pratiques de sa mise en place, puisqu'à terme c'est 800 000 jeunes qui seront concernés, ce qui est énorme pour une classe d'âge extrêmement jeune. Et un militaire me faisait remarquer que seuls les régimes totalitaires avait à cette échelle-là, voilà, voulu former militairement des jeunes gens. Voilà. Et par ailleurs,
alors là, il ne s'agit pas de les former militairement, mais
non. Mais si vous regardez les images, quand même, c'est bon. Vous voyez l'uniforme, la levée des couleurs. On est quand même pas chez les scouts. Hein, c'est quand même un degré au-dessus. On apprend même à mettre le doigt sur la couture du pantalon, au sens propre du terme. Je ne suis pas sûre que ce soit ça dont les jeunes gens de 17 ans aient besoin pour retrouver la cohésion nationale.
Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs à vous, Sylvain Bourmeau, la Marseillaise, le doigt sur la couture du pantalon, le fait d'être au garde à vous ?
Non, parce que moi j'ai... Alors peut-être les trois jours, vous savez, ce stage auquel on était convoqué en prévision du service national, parce que j'ai fait mon service national, mais je l'ai fait comme coopérant, donc pas de manière militaire. Mais j'ai quand même passé un an et demi à travailler pour le service public, en l'occurrence. Et voilà, et donc parce que ça existait encore quand j'avais l'âge, c'est-à-dire 24 ans, grosso modo, de le faire.
Et est-ce que dans ce qui est proposé aujourd'hui, vous voyez des réminiscences justement de ce que pouvait être ce service national
militaire? Oui, mais encore une fois, il a été déjà dit, et c'est important de le préciser, que ça concerne une tranche d'âge qui est différente, ça concerne des gens beaucoup plus jeunes, et c'est assez inquiétant. Mais au-delà de tous les aspects symboliques sur lesquels on va revenir, parce qu'ils sont peut-être symptomatiques de quelque chose, d'un certain rapport aux politiques, moi je voudrais déjà, d'ores et déjà, dire que si c'est un gadget, c'est quand même un gadget qui coûte une fortune. C'est-à-dire que ce dispositif, quand il tournera à plein régime pour l'ensemble d'une classe d'âge concernée est budgétée 2,5 milliards d'euros par an. Vous savez ce que c'est que 2,5 milliards d'euros par an ? C'est une somme d'argent considérable. C'est 4 fois le budget de Radio France. C'est 25% du budget total du ministère de la Culture. C'est 0,5% du budget de l'Éducation nationale. Tout ça pour un gadget. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire en mettant cet argent-là dans l'audiovisuel public, par exemple, avec pour mission de d'éduquer cette classe d'âge, de produire des programmes intéressants, éducatifs, spécifiquement conçus pour des gens de cet âge-là. Je pense qu'on aurait les moyens même de s'adresser à beaucoup d'autres classes d'âge, et même plus largement à l'ensemble des citoyens français, et faire des choses intéressantes. Donc il y a un moment donné où, moi je veux bien qu'on s'amuse avec les symboles, si vous voulez, mais quand ça coûte des sommes pareilles, il faut peut-être qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse s'il n'y a pas des meilleures manières de dépenser l'argent public, que par ailleurs il n'y a pas, puisque les budgets dont je parle, on prévoit de les raboter dans les mois qui viennent.
Alors, sur les sommes que ça va engendrer, Gabriel Attal, qui est le secrétaire d'État qui porte ce projet, qui est secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, lui dit moins de 1,5 milliard d'euros par an. Non pas 2,5, mais 1,5, bon, ce qui est déjà évidemment énorme. Est-ce que vous êtes d'accord, Coralie Delhomme et Aude Lancelin, que quitte à dépenser autant d'argent, quand le dispositif sera pleinement effectif, ce serait peut-être davantage utile, quitte à l'utiliser pour les jeunes, à travers d'autres dispositifs, pour d'autres buts que celui qui est annoncé dans le cadre de ce service national universel, à savoir donc faire du brassage social, éduquer aussi à ce que c'est qu'être un citoyen, et puis encourager les jeunes à s'engager davantage. Coralie Delhomme.
Pour ce qui est de ce que c'est que d'être un citoyen, je trouve très paradoxal qu'on mette des jeunes dans cette situation. Enfin, c'est pas le fait d'apprendre la Marseillaise ou de saluer le drapeau qui va fabriquer des citoyens, en fait. Vous pouvez pas, d'un certain côté, demander ça en disant ça va faire des bons citoyens, et d'un autre côté, tailler dans les budgets de l'éducation, sous-payer les profs, diminuer le nombre d'heures d'histoire de français, diminuer le nombre d'heures d'histoire. Enfin, un citoyen, c'est quand même avant tout un citoyen éclairé. Donc, pour ce type de choses, moi, je pense que c'est à l'école de faire le travail. Et par ailleurs, former des bons citoyens, d'accord, mais dans le même temps, si vous voulez, on taille dans tous les services publics, l'hôpital fonctionne plus, les bureaux de poste ferment dans les villages, les petites lignes de SNCF vont fermer également à leur tour, on privatise tout. Si vous voulez, c'est la cohésion nationale, c'est aussi ça. C'est aussi le maillage territorial via les services publics, qui ont une vertu égalisatrice d'ailleurs. C'est tout un ensemble de choses. C'est pas simplement se mettre au garde à vous quand le drapeau est monté.
Aude Lancelin.
Oui, moi je pense qu'effectivement c'est la mauvaise réponse à un vrai problème de cohésion nationale que la majorité présidentielle actuelle n'est absolument pas en train de résoudre, évidemment, pour toutes les raisons qui viennent d'être énoncées, le sens de l'intérêt général est en train d'être sacrifié aux intérêts privés à de très larges échelles. Et il est clair que ce n'est pas avec des rituels comme ça qu'artificiellement on recrée le sentiment national, le sentiment d'appartenance, l'amour de la patrie. Ça n'a véritablement aucun sens.
Même si néanmoins vous en partagez quand même le diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic sur lequel se base la création de ce SNU, à savoir le fait qu'il y a une communauté nationale qui a tendance à se déliter et que ce SNU apporterait une réponse. Alors on comprend bien que vous considérez que ça n'est pas une réponse adaptée, mais en tout cas sur le diagnostic d'un délitement, oui, de la société de l'ancien.
Bah, je crois que c'est incontestable. Il y a des fractures très profondes au sein de la communauté française. C'est une évidence. On l'a vu encore absolument tout l'hiver. On a le sentiment qu'il y a vraiment des populations qui ne communiquent plus, qui ne se comprennent plus, qui n'appartiennent plus à la même nation. Malheureusement, les gouvernements, depuis la séquence terrible d'attentats que nous avons vécu en 2015 et 2016, la majorité présidentielle de François Hollande et celle-ci lui embrasse le pas, ont choisi de concentrer les fonctions régaliennes dans des espèces de cérémonies comme ça où il suffirait dans les larmes et dans le sang de s'étreindre pour à nouveau s'appartenir et être français. Mais ça ne marchera pas comme ça, ça ne fonctionnera pas comme ça.
Alors là, avec le SNU, c'est plutôt quelque chose qui est censé se faire dans la joie davantage que dans la douleur, normalement. En tout cas, c'est la façon dont en parle Gabriel Attal, donc le secrétaire d'État chargé de la mise en place de ce service national universel. Écoutez-le, c'était avant-hier sur France 2.
C'est un moment de cohésion. Moi, depuis trois jours, je suis allé à la rencontre des jeunes. Je suis allé dans le centre du Nord, du Cher, de l'Eure. Je serai dans le Val d'Oise aujourd'hui, dans le Morbihan et dans le Vaucluse en fin de semaine. Et ce que je constate, c'est que on a des jeunes qui sont venus à la recherche de partage avec des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, d'horizons géographiques totalement différents. La plupart des jeunes qui sont aujourd'hui au service national universel, ils prenaient le train pour la première fois. Ils ont changé de région pour la première fois. C'est aussi un élargissement du champ des possibles pour ces jeunes, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes s'autocensurent dans leur choix d'orientation. Ils n'osent pas aller faire une formation, des études, saisir un emploi, un apprentissage dans un autre territoire, parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience de mobilité. Donc c'est très important d'avoir déjà cette première expérience. Et ensuite, il y a une recherche de sens autour des valeurs de la République, de cohésion autour des valeurs de la République, qui sont importantes pour les jeunes qui souhaitent se les approprier.
Alors évidemment, le SNU ne va pas tout résoudre des mots de la société, Sylvain Bourmeau, mais cet élargissement du champ des possibles dont parlait Gabriel Attal, est-ce que ça ne vaut pas le coup, même sur une période courte, de l'expérimenter?
Je comprends pas très bien à quoi ça correspond. Les jeunes en question, ils vont à l'école depuis leur plus jeune âge, puisque même l'âge obligatoire, là encore, c'était un gadget, parce que la réalité était déjà celle d'une scolarisation pour 99% des enfants, mais commence très tôt à la maternelle. Donc, en fait, on a toute une série d'années qui sont dédiées à l'enseignement, à l'éducation. Donc on a moyen de faire en sorte de renforcer peut-être, s'il y en a besoin, tel ou tel aspect de l'éducation, de l'instruction civique en particulier.
Sauf que sur la question de la rencontre des autres et de la mixité sociale, l'école, elle peine aujourd'hui justement à répondre à ça.
Précisément, il y a matière à réformer la mixité sociale à l'intérieur des villes, entre les écoles, la mixité sociale à l'intérieur des écoles, la mixité scolaire aussi. Il y a tout un travail de lutte contre les inégalités sociales à l'école à mener, qui n'est pas facile sans doute à mener, mais encore faudrait-il commencer à s'y atteler. Et je pense qu'on pourrait d'ailleurs faire des choses qui seraient autrement plus spectaculaires en termes de résultats, avec beaucoup moins de moyens, parce que c'est pas nécessairement des choses qui coûtent de l'argent. Ça peut être des décisions de régulation du système, par exemple, qui touche à la carte scolaire, qui touche, etc. Il y a beaucoup de choses à faire qui sont de l'ordre du principe et pas de l'ordre du budget. Alors, on nous répète en permanence qu'on n'a pas d'argent public pour faire telle ou telle chose. En l'occurrence, il y aurait des manières de lutter contre les inégalités qui ne coûteraient pas d'argent, simplement nécessiterait qu'on affiche et qu'on mette en œuvre des principes, ce qu'on ne fait pas. Donc, je ne vois pas très bien, si ce n'est que ça, en fait, fait partie d'un ensemble de gesticulations. Et je crois que Audelancelin avait raison de rappeler ce contexte post-attentat. Bon, des événements terribles, mais c'est vrai que la France a choisi une réponse qui est une réponse de l'ordre du symbole, de la gesticulation. Encore une fois, les opérations Vigipirate, etc., on ne voit pas la même chose dans des pays qui ont subi les mêmes types d'attaques. On n'a pas des militaires armés, surarmés dans les rues, etc. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas là pour protéger d'attaques. Sont là pour rassurer, entre guillemets, la population. Je ne pense pas que ça la rassure, je pense que ça installe au contraire un climat qui n'est pas forcément souhaitable, mais tout ça participe, au fond, du même usage de ces symboles qui sont, à mon sens, mal appliqués. Il y a un problème, non pas, je crois, de sentiment national, je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire, il y a un problème profond d'inégalité dans ce pays. Donc c'est à ça qu'il faut s'atteler.
Mais est-ce que ça veut dire, et je vous pose la question à tous les trois, que l'usage des symboles, la Marseillaise, le drapeau, le fait de convoquer comme ça un certain nombre de signes qui relèvent du patriotisme, ça vous paraît systématiquement de la gesticulation, ou bien c'est quelque chose qui peut être utile dans la mesure où c'est associé à d'autres mesures qui seront plutôt, qui porteront sur les questions, disons, économiques et sociales? Ou bien est-ce qu'il faut totalement écarter ce genre de recours à ces symboles, Coralie Delhomme?
Non, mais moi, à titre subjectif, j'aime bien tout ça. Honnêtement, j'aime bien. Je sais ce que je suis allée chercher quand je suis entrée dans l'armée. Je suis allée chercher d'abord de l'effort, le fait de s'éprouver soi-même, de la discipline, de l'autorité, une vie très communautaire, un style de vie très particulier. Et je suis allée chercher du sens aussi. Donc j'ai pas du tout de mépris pour tout ça. Simplement, je pense pas que c'est en mettant 15 jours des adolescents dans une colo qu'on va réussir véritablement à retisser du lien social, parce que les fractures, elles sont très profondes. Et quand on regarde, par exemple, quand on lit le dernier livre de Jérôme Fourquet, qui s'appelle L'archipel français, il explique notamment comment la société s'est désagrégée, s'est archipélisée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tas de catégories de population qui ne se rencontrent plus. Et c'est pas en les mettant 15 jours dans un dortoir que ça va... Il faut des changements beaucoup plus structurels, si vous voulez. Des changements beaucoup plus profonds qui passent effectivement par peut-être une réflexion sur la carte scolaire avec tous les enfants de la bourgeoisie qui échappent à la carte scolaire ou qui vont dans le privé. Il y a dans son livre notamment un long passage sur la sécession des élites, le fait qu'il existe aussi dans un certain nombre de quartiers des collèges ethniques, et pour cela on ne fait pas grand-chose, etc., etc. Enfin, c'est pas les symboles. Moi, j'aime bien, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose de très profond à reconstruire.
Les symboles, vous aimez bien, Sylvain Bourmeau et Audelancelin?
Oui, non, mais je n'ai évidemment rien contre. Une fois encore, je ne partage pas du tout l'horreur du drapeau et les craintes d'une partie de la gauche, d'une grande partie de la gauche, par rapport à l'idée nationale. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je constate simplement que là, on est dans une forme de réponse faible, qui est un peu la même que qu'on a pu entendre lors de certaines élections au sujet de présidentielle, au sujet de l'uniforme. Il faudrait remettre l'uniforme au lycée, et là, d'un seul coup, la jeunesse se redresserait. Tout ça, évidemment, un peu ridicule. Maintenant, je peux comprendre le sentiment de certains chefs militaires. J'ai cru comprendre que c'était la ligne du général Pierre de Villiers, par exemple, c'est-à-dire une forme de nostalgie par rapport à un service militaire qui avait été donc aboli par Jacques Chirac en 97, un service militaire mythifié.
Oui, voilà, qui est sans doute très très fantasmé par rapport à ce qui pouvait provoquer de cohésion nationale, quoi. Parce que, en tout cas, sur les dernières années, j'imagine, Sylvain Bourmeau, que tout le monde ne faisait pas la coopération. Par exemple, il fallait avoir certaines, comment dire, certaines habitudes pour être capable de le faire. Oui, pardonnez-moi, je vous laisse
et
poursuivre.
Que, et non, juste une précision, d'autant qu'on sait en plus, enfin, dans ma classe d'âge et les suivantes, que les élèves des grandes écoles étaient très souvent exemptés ou faisaient leur service militaire dans des conditions, dans des bureaux ou dans des conditions particulièrement douces, quoi, et ne se mélangeaient évidemment pas à la troupe puisqu'ils étaient automatiquement officiers.
Mais je pense que à l'époque où le service militaire existait, l'expérience de la mixité sociale se faisait beaucoup plus dans le système scolaire qu'elle se fait aujourd'hui. Je ne dis pas que le système scolaire de l'époque était parfait, il était déjà sans doute ségrégué, il y avait déjà l'enseignement privé, etc. Mais les choses ne se sont pas arrangées de ce point de vue-là. Les choses ont continué de se détériorer. Donc effectivement, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer. Mais pour revenir à votre question sur les symboles, moi je ne suis pas particulièrement attaché à ça. Je sais bien que pour faire de la politique, il faut sans doute des symboles. Ça dépend lesquels. Et je dois dire que pour quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire quelqu'un qui a 54 ans, les symboles auxquels on était attachés, c'est plutôt le drapeau européen que le drapeau français. Par exemple, s'il faut vraiment un drapeau, en tous les cas, c'est la multiplicité des drapeaux. C'est pas un seul drapeau. Et donc, ce retour vers...
Ce serait quoi ? Alors, plutôt l'hymne à la joie que la Marseillaise ?
Non, mais peu importe. Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que ça participe d'un mouvement qui n'est pas nouveau, hein, qui a été initié à gauche par les blouses grises de Jean-Pierre Chevènement. C'est pas un hasard, c'est-à-dire un nationaliste à gauche. On a retrouvé certains de ses compagnons de route, d'ailleurs, plutôt à l'extrême droite par la suite, aux côtés de Marine Le Pen. Ces gens qui venaient du CRS, qui sont dans des formes de nationalisme depuis très très longtemps.
Alors est-ce que vous ne confondez pas nationalisme et patriotisme ?
Mais je vois pas la différence. J'ai jamais compris la différence entre ces deux termes.
Patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le nationalisme, c'est plutôt le rejet de ceux qui ne font pas partie de la communauté nationale. Enfin, moi, c'est comme ça que je définirais, ouais. Non ?
Enfin, en tous les cas, il y a ce sentiment, enfin, c'est une forme de fierté que j'ai du mal à saisir personnellement. Mais surtout, je pense que la crise la crise de légitimité, au fond, dans laquelle la société se trouve, et qui peut toucher aussi bien le professeur à l'école que le journaliste, que le responsable politique, cette crise de légitimité, elle est souvent mal interprétée comme une crise, et c'est comme ça que parlait Jean-Pierre Chevènement, comme une crise de l'autorité. Le professeur n'aurait plus l'autorité sur ses élèves, mais c'est peut-être un problème d'abord et avant tout de légitimité. Cette crise-là, les scientifiques, par exemple, l'ont ressenti de la même façon. Ils ont bien compris que c'était compliqué de dire la science c'est moi, je tape du poing sur la table et j'ai raison et voilà et c'est la vérité. Donc ceux qui sont les plus intelligents ont compris que il fallait qu'ils reconstruisent une forme de confiance en acceptant d'aller à la rencontre du public, d'être dans la conviction. Et c'est la même chose pour les journalistes. C'est pas en brandissant, personnellement je l'ai pas, j'ai jamais eu, pour vous dire mon attachement au symbole, une carte de presse bleu, blanc, rouge, qu'on peut affirmer une autorité journalistique. Ça n'a aucun sens. On affirme éventuellement sa compétence journalistique par sa pratique, pas par le fait de montrer une carte bleu, blanc, rouge. Et donc, même chose pour les uniformes, pour tous ces symboles. C'est illusoire de croire qu'on va pouvoir résoudre cette crise de la légitimité avec des symboles de l'autorité.
Coralie Delhomme.
Oui, alors moi je ne suis pas tellement d'accord avec tout ça. Je pense que les symboles ont leur importance et je pense que beaucoup de gens sont assez naturellement patriotes en fait. Et justement, c'est là qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'avec ce service national universel, on va donner les apparences du patriotisme, alors qu'en fait, il me semble que la politique qui est actuellement menée par Emmanuel Macron est tout l'inverse. C'est-à-dire que un certain nombre de biens publics, de biens communs, comme par exemple la Française des Jeux ou pire encore Aéroport de Paris, vont être vendus à des intérêts privés. Des industries qui sont des fleurons, comme Alstom, vont être cédées à des intérêts étrangers, en l'occurrence à General Electric. Tout un tas de choses comme ça, tout est à l'avenant. On se soumet en permanence à des règles supranationales européennes dont on s'est certes volontairement doté, mais on s'est mis dans un carcan qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de politique économique autonome et que, en dépit des alternances successives en France, la politique conduite est toujours la même. C'est-à-dire que les citoyens ont l'impression qu'ils n'ont absolument plus la maîtrise de leur destin, qu'ils ne peuvent plus dériver d'une route qui est préalablement tracée et ils n'arrivent plus à se réapproprier. Et je pense que la crise des Gilets jaunes, ça a beaucoup été ça.
Donc là, on n'est pas dans un manque de patriotisme pour vous, mais plutôt... on n'est pas dans un excès, pardonnez-moi, de patriotisme, mais plutôt dans dans un manque de patriotisme.
Il y a quelque chose qui est affiché et qui est en contradiction radicale avec ce qui est fait, à mon sens.
Notre consoeur de France Culture, Louise Touré, qui présente l'émission Être et Savoir tous les dimanches de 17h à 18h donc sur France Culture, a signé un papier intéressant sur Slate ces jours-ci par rapport donc justement à ce service national universel. Alors elle s'oppose notamment au fait, elle n'est pas la seule hein, d'ailleurs, loin de là, au caractère obligatoire de ce SNU, en disant qu'elle demande un droit d'objection de conscience parentale. Et elle se pose un certain nombre de questions dans cet article, notamment, sommes-nous vraiment obligés d'aimer notre pays ? Je trouve que cette question, elle est intéressante parce qu'on se la pose assez rarement. J'aimerais savoir comment vous y répondriez à cette question. Tiens, Sylvain Bourmeau, je vais commencer avec vous, et ensuite Old Lancelin.
Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire aimer un pays. Enfin, je veux dire, je peux aimer des choses dans un pays, je peux aimer certains moments de l'histoire de ce pays, je peux aimer, je peux aimer une langue, par exemple, ça, je peux comprendre, mais aimer un pays, je veux dire, c'est beaucoup trop abstrait pour moi. Mais juste sur ce texte de Louise Touré que j'ai lu, que je trouve intéressant, et elle pointe quelque chose d'important, qui est cette objection parentale, parce que au fond, on l'a dit, je le redis, ce sont des mineurs, ce sont des enfants de 16 ans. Et elle part d'une réflexion qui est de dire, est-ce que j'ai envie de voir mes enfants, quand ils auront 16 ans, faire ça? Ou plutôt, qu'est-ce que je vais leur dire s'ils n'ont pas envie de le faire, alors que c'est obligatoire? Et donc, c'est vrai que ça concerne aussi les parents. C'est-à-dire que dès lors que ce sont des mineurs, les parents, en tant que citoyens, peuvent tout à fait être amenés à refuser que leurs enfants soient embrigadés de la sorte par la République française. Enfin, il y a quelque chose quand même de... faisiez des parallèles avec des régimes totalitaires. Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable à embrigader des enfants de la sorte. C'est pas du tout la même chose que des majeurs, en fait, que des citoyens majeurs.
Mais c'est pas aussi une façon de considérer, quand on est parent, que nos enfants sont notre propriété exclusive et que l'État n'a rien à faire dans l'éducation nous leur délivrons.
C'est pas une question de propriété, c'est une question de responsabilité. Quand il s'agit de mineurs, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, les parents sont responsables de leurs enfants.
C'est obligatoire quand même. L'école est obligatoire.
Bien sûr, et heureusement. L'instruction. Mais là, on parle pas. Enfin, on parle d'un mode d'instruction quand même, pour le moins curieux.
Aude Lancelin, alors, et sur peut-être le caractère obligatoire avec ce droit d'objection, il faut rappeler, hein, quand il y avait le service militaire, qui avait fini par s'appeler service national, là aussi d'ailleurs, tiens, je renvoie à un article de Bénédicte Chéron, qui est historienne, qu'elle a publié dans Le Monde il n'y a pas longtemps, où elle explique aussi pourquoi et comment les mots et les termes ont changé pour qualifier ce service. Il y avait ce service donc militaire, il y avait la possibilité d'être objecteur de conscience, par exemple. Là, c'est obligatoire. Est-ce que ça pose un problème? Et sur l'autre volet de la question que je posais précédemment, c'est-à-dire sur l'idée de se dire, est-ce qu'on est obligé finalement d'aimer son pays? Est-ce qu'on est obligé d'être patriote quand on appartient à une communauté nationale?
Alors, je n'ai pas lu le texte de Louise Touré auquel vous faites allusion, même si j'en ai en effet entendu parler. Ce qui m'intéresse dans notre discussion, c'est de voir que c'est un peu un souci de riche quand même, si je puis me permettre, parce que ce qui montre d'ailleurs la profondeur de la fracture au sein de la population, c'est ce qu'on a par exemple vécu quand Lydie Delhomme parlait des gilets jaunes tout à l'heure, à savoir très rapidement. Dès le 24 novembre, en l'absence de toute instruction politique, de culture syndicale, après la disparition des grands partis de gauche structurants, etc., à quoi se sont raccrochés les gens? Tous se sont raccrochés à la Marseillaise, parce que finalement, c'est le seul chant qu'ils connaissaient, et beaucoup d'ailleurs le connaissent et le pratiquent par le football en réalité. Ça a scandalisé, ça a été un scandale chez les intellectuels de gauche français. C'est-à-dire, c'est quand même un argument qui revient très souvent contre les gilets jaunes. Ils se sont raccrochés aux symboles nationaux, aux drapeaux, à la Marseillaise. Ce sont donc des lepénistes, ce sont des nationalistes, ce sont des extrémistes, ce sont des gens de droite dure. Ils sont forcément suspects, ils sont forcément coupables. Alors qu'en réalité, je rappelle tout de même que la Marseillaise, c'est la République, hein, donc on est loin en réalité des symboles de l'extrême droite, et que en réalité, les symboles nationaux, c'est parfois ce qui reste aux gens à qui on a tout enlevé par ailleurs ou qui n'ont rien par ailleurs. C'est une forme d'universalisme spontané comme ça. Et je trouve ça toujours regrettable du coup de le renvoyer à des projections extrémistes qui ne sont absolument pas contenues dans l'esprit des gens qui chantent ou qui usent de ces symboles nationaux. Et ce qui est amusant dans notre discussion, c'est que d'une certaine façon, on reproduit cette forme d'exclusion. Moi, je critique, si vous voulez, le SNU au sens où je pense que c'est un outil, c'est un pansement sur une jambe de bois, et que le vrai problème, comme disait Sylvain, c'est la question des inégalités dans ce pays. Mais ce ne sont pas, une fois encore, je le répète, les symboles nationaux qui me gênent dans cette affaire.
Coralie Delhomme.
Non, un peu la même chose en réalité. Je crois d'un autre côté que si on veut former des citoyens, encore faut-il que le fait d'être citoyen ait un sens. Alors moi, j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut apprendre l'histoire, et ça c'est très important, et non pas enlever des heures sans arrêt. Mais il faut aussi que la qualité de citoyen ait du sens au quotidien, si vous voulez. Et pour cela, que le vote ait encore un sens, qu'il ait encore un effet, et que la démocratie fonctionne dans des conditions où l'alternance soit possible, ce qu'elle n'est plus depuis longtemps. Et je pense que cette crise des Gilets jaunes a été certes une crise sociale, mais elle a été aussi une crise de désappropriation et de sentiment de ne plus avoir prise sur le destin collectif. Les gens ont le sentiment qu'ils ont été dépossédés de leur qualité de citoyen et ils ne peuvent plus, par leur vote, engager un changement de politique. Et de la même façon, le succès de la thématique du RIC parmi les Gilets jaunes, ça témoigne d'un désir, d'un souhait profond de s'engager dans le domaine de la citoyenneté. Si vous voulez, les gens veulent participer à la marche des choses et non pas être simplement spectateurs.
Alors justement, le SNU vise à favoriser l'engagement des jeunes qui le sont peut-être déjà. D'ailleurs, et on peut le voir à travers un certain nombre de mobilisations, mais ça, sur l'intention. Aussi ce projet.
Qu'il s'engage pourquoi ? Je veux dire, il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. La dernière fois qu'il y en a eu un, il a été détourné. Aujourd'hui, des gens essayent de s'inscrire sur un site pour obtenir un référendum contre la privatisation d'aéroport de Paris. Tout est fait pour les en empêcher. Tout. Le site ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il y a des bugs sans arrêt.
Ouais, je crois que c'était les premiers jours parce qu'il y avait peut-être beaucoup de monde.
Ça continue. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on souhaite que les gens ne votent pas, qu'ils ne fassent pas les choix démocratiques, on fait d'eux des sujets et non des citoyens. En vérité, au quotidien, c'est ça.
Sylvain Bourmeau.
Ouais, je suis, enfin, sur l'histoire du référendum, moi j'ai réussi le premier jour parfaitement. Je crois qu'il y a des difficultés, mais je crois pas que ça ait été fait exprès. Je pense que c'est voilà, peut-être qu'il n'y a pas eu moyen suffisant mis. C'est dommage. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une forme d'ironie quand même dans cette façon de considérer que ce service national universel va réparer une atomisation, une fragmentation de la société, puisque c'est ce qu'on nous explique. Et d'un autre côté, dans le fait de pratiquer la politique en cassant littéralement tous les corps intermédiaires. Là, il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire que si vraiment il s'agit, et je pense qu'il faudrait reconstruire une intégration sociale, tisser les liens de façon plus forte dans la société française, eh bien ça passe par le respect des associations, des syndicats, de tous les corps intermédiaires, toutes choses qui sont détestées par un pouvoir exécutif qui se vit et se pense dans sa relation singulière, personnelle, avec un ensemble atomisé de citoyens qui ne les intéresse au fond que le jour où il s'agit de mettre un bulletin dans une urne. Or, la politique ne peut pas se résumer à ce jour-là. Et je crois que si vraiment l'objectif était de reconstruire, de refaire société, alors il faudrait trouver des moyens d'encourager des initiatives collectives, quelque forme qu'elles prennent. Et on a besoin de formes extraordinairement variées dans tous les sujets, dans tous les domaines. Il y a des tas de manières d'être citoyen au jour le jour. Et tout ça, on a le sentiment que c'est vraiment pas la priorité et l'ordre du jour. Donc, il y a quelque chose qui laisse apparaître une forme de cynisme dans l'utilisation de ces symboles. Et puis, il y a autre chose sur laquelle je voudrais terminer, qui est le décalage aussi entre le discours. On pouvait penser, et je l'ai pensé au début, mais maintenant j'ai des doutes, qu'Emmanuel Macron était un candidat très, et même un président très pro-européen. Absolument pas nationaliste, par exemple. Les positions qui sont les siennes sur la laïcité, je m'y reconnais, mais je ne comprends pas, dès lors que je m'y reconnais, pourquoi il remet à l'agenda, à l'ordre du jour, ces sujets, même quand ils ne sont pas mis à l'agenda, par exemple, par les Gilets jaunes. Donc il y a un usage cynique de questions qui divisent, là même où il a des positions qui peuvent être parfaitement comprises par une partie de la gauche dans laquelle je me reconnais. Donc, si vous voulez, c'est ce rapport très instrumental à des thématiques politiques, et ce service national universel me semble ressortir de ça. C'est quoi l'idée? C'est d'essayer de piquer au Front National ou au Rassemblement National, c'est la même chose, des thématiques. On sait très bien depuis 20 ans que c'est pas en essayant de disputer au Front National des thèmes qu'on va efficacement lutter contre lui. On sait au contraire qu'on ne fait que inscrire dans le marbre et faire basculer vers la droite toute la discussion politique. C'est ce qui se passe depuis 20 ans dans ce pays. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète au fond.
Bah, peut-être, Danselin, avez-vous une réponse aux interrogations de Sylvain Bourmeau ?
Non, mais je suis assez largement d'accord. C'est vrai que on a par exemple crédité Nicolas Sarkozy d'avoir fait reculer le Front National en 2007, ce qui était une vaste blague, puisqu'au contraire, il a légitimé les thèmes même du Rassemblement National actuel dans la politique dite légitime. Et Emmanuel Macron montre qu'il n'est absolument pas le candidat que la gauche a voulu voir qu'une partie de la gauche a voulu voir dans l'entre-deux-tours, à savoir un libéral libertaire. C'est un candidat profondément conservateur en réalité, hein, qui a une vision du pouvoir quasiment monarchiste d'ailleurs, hein, qu'il a dès son élection exprimé extrêmement tôt dans les symboles justement, hein, qui a même réinvesti
et même un an avant dans un entretien au Point.
Voilà, oui, le fantasme monarchique, la visite à la basilique Saint-Denis quelques jours avant
la célébration de Jeanne d'Arc.
L'élection, Jeanne d'Arc,
le Puy du Fou,
le réinvestissement de pour recevoir des chefs d'État de Versailles, ce qui est quand même un symbole absolument désastreux. Quand on voit ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu 6 mois plus tard, ce qui lui revient en boomerang, voilà. Et finalement, ça n'est qu'une nouvelle péripétie de ce qu'on découvre à son sujet. Oui.
Si vous voulez bien, on va laisser la conclusion à l'armée, à la grande muette. Non, Coralie Delhomme, ancienne militaire. Donc.
Pour conclure, moi, je redis que j'ai l'impression qu'il y a une très grande différence entre ce qui est affiché et ce qui est fait. Emmanuel Macron a senti qu'il y avait un besoin d'autorité, un besoin de verticalité, un besoin un désir de se sentir à nouveau français et de ne pas se le faire interdire, le désir de se référer au drapeau, etc. Il a senti que cela existait. Et donc, il donne des gages à l'électorat en mettant en scène un patriotisme qui est à l'exact inverse de ce qu'il fait au quotidien et qui consiste à s'adapter à l'Europe, à s'adapter à la mondialisation, à signer des traités de libre-échange, à vendre notre industrie à tel ou tel capital étranger, etc., etc. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tartufferie.
Alors on verra bien aussi ce qu'en pensent les jeunes, parce qu'on finira par avoir quelques retours d'expérience. Peut-être auront-ils une autre vision que vous de ce SNU. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Coralie Delhomme, Aude Lancelin et Sylvain Bourmeau, d'avoir participé à ce qui était le dernier club des idées du Grain à Moudre. Puisque l'émission s'achève bientôt, le Grain, ça continuera quand même un peu cet été, enfin même beaucoup cet été, avec Antoine Genton et Julie Gacon. Ce sera le Grain à Moudre d'été. Puis à partir de la rentrée, nouvelle émission, toujours consacrée au débat d'idées, mais qui sera animée par Emmanuel Laurentin. Et je voudrais donc en profiter cette fois-ci pour remercier tous ceux qui sont passés par ce club. Ça fait 3 ans, 4 ans, je ne sais plus très bien. C'est vous le doyen, Sylvain Bourmeau. Merci également à Laetitia Stroche-Bonnard, Géraldine Mulman, Laurent Bigorgne, Anastasia Colosimo, Brice Couturier, Philippe Manière, Ludivine Bontini et Sylvain Kahn. Et j'espère vraiment que je n'ai
oublier personne. Donc vendredi prochain, il y aura quand même le dernier Grain à Moudre de la saison régulière, émission un petit peu spéciale. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, mais ce sera toujours au Bel Air. Et dans un... Bah voilà, je le cherchais justement.
Je suis là Hervé. Dans je peux venir la semaine prochaine pour un spécial Grain à Moudre ou pas?
Ah, venez si vous voulez, ouais. Bon. Et puis si vous avez une idée de sujet...
On va en parler après mon émission, si vous voulez bien.
Qui sera musicale ce soir, puisque c'est la fête de la musique.
J'ai la joie d'être entouré de musiciennes et de musiciens que j'aime. On sera avec Léonie Pernet, avec Raphaël Lanader et avec Christophe, ce qui est quand même une belle façon de fêter la musique. Demain, il y a quand même politique encore à midi.
Oui, on va s'intéresser à la politisation de la politique migratoire.
J'essaierai de comprendre le titre en écoutant. Merci beaucoup, Hervé Gardette. On retrouve Antoine Maret pour les titres d'actualité.